Voilà, actuellement, nous sommes sur la conférence Les addictions, addictions contemporaines et champs de conscience élargis, avec Charles Maxence, avec Alice Guyon et Fabien Moine, que nous allons rencontrer dans un petit instant.
Ça pour dire qu'en fait, c'est pas le fond du message.
Fabien Moine, l'addiction, est-ce que c'est une forme d'anesthésie, d'après ce que vous avez enregistré au fur et à mesure que vous avez rencontré les personnes?
Sur les 15 années de pratique que j'ai pu faire en séance, en laissant le temps aux gens de s'exprimer, sur des séances d'une heure, une heure et demie, oui, je me suis rendu compte que c'est un mécanisme de suradaptation où l'addiction vient agir comme un anesthésiant sur des troubles, sur des difficultés, voire sur des traumas. Et puis ça peut être des addictions aiguës, ça peut être des addictions chroniques, ça peut être des petites addictions comme des très grosses. Et en fait, elles viennent combler un manque de sens ou un manque de capacité et de ressources à pouvoir gérer ce stress ou ce trauma. Et qu'en fait, on est souvent prompt à juger les personnes qui sont soumises à des addictions. Ça peut être des addictions alimentaires, des addictions aux écrans, des addictions évidemment à des toxiques comme l'alcool ou différentes formes de drogue, le café, la cigarette. Mais ça peut être aussi des addictions un peu plus sournoises comme le sport à haute intensité ou le travail dans lequel on va se réfugier. Et souvent, on va émettre des jugements. Bah, vraiment, il est alcoolique ou pourquoi il ne diminue pas la clope? Et bah, parce que en fait, c'est un refuge. C'est un substrat qui permet de tenir le coup par rapport à une difficulté interne et qui permet de ne pas décompenser plus gravement. Alors le problème, c'est qu'une addiction, on peut en avoir besoin temporairement, on va dire de la pratique, de boire un petit coup d'alcool, de fumer une clope pour se déstresser. Mais le fait, c'est qu'elles ont des agents chimiques très forts qui vont faire en sorte que ça nous parasite et qu'après, on n'a plus de libre arbitre pour arrêter. Et là, il faut avoir la volonté, c'est une chose, mais surtout l'encadrement et qui va mettre de la formation, mais surtout une qualité de présence et de non-jugement pour pouvoir s'en séparer et de bien faire comprendre que bah oui, vous êtes anesthésié, vous avez dû vous anesthésier face à une situation où vous n'aviez pas assez de ressources. Et maintenant, c'est davantage le cas et avec davantage de connaissances pour vous, de la volonté que vous allez aller chercher et l'encadrement autour de vous, on va pouvoir sortir de cette addiction, de ne plus être anesthésié puis d'aller contacter la cause profonde du mal-être qui est un accident de vie, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'emploi, mais ça peut être un trauma plus violent comme un accident, voire une agression. Et puis là, on peut faire le travail et puis se libérer de cette addiction en se libérant de la cause fondamentale qui ont fait qu'on les a déclenchées.
Vous avez parlé de la zone refuge et une façon également très propre à votre façon d'intervenir, disons. Une personne qui est addicte à la cigarette, vous ne fixez pas un nombre de cigarettes à respecter, vous lui demandez de combien de cigarettes est-il capable de consommer.
Ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas du tout addictologue, mais par contre, je voyais des gens au conseil alimentaire qui avaient des cigarettes et je voyais bien que ça les parasitait très fortement dans leurs problèmes de santé. Et en fait, j'y allais sans jugement et je leur disais pas la clope c'est mauvais, parce qu'évidemment, ils le savent mille fois mieux que moi. Par contre, je leur disais, là, t'en fumes une vingtaine pour schématiser, t'en as besoin de combien? Et les gens, je voyais leur regard changer, ils allaient comme à l'intérieur d'eux-mêmes et ils me sortaient très rapidement un chiffre. C'est-à-dire que presque ils l'avaient, soit ils enlevaient les cigarettes superflues de la journée et calculaient très vite, soit ils avaient déjà d'eux-mêmes fait le calcul. Et ils me disaient, 14, 13, 16. Je dis, ok, est-ce que c'est jouable pour vous à partir de demain? Oui, mais 100% du temps. Parce que eux-mêmes étaient confrontés à leur vérité, c'est-à-dire, il y en a dont j'ai besoin, 14 sur 20, c'est sûr, j'en ai besoin. Par contre, il y en a 6 dont je n'ai pas besoin. Donc je peux m'en priver. Parce que là, je ne vous demande pas si vous avez envie, je vous demande si vous en avez besoin. Mais après, je ne vous demande même pas de les ôter. Je vous pose la question, est-ce que c'est possible? En fait, systématiquement, ça passait. Et les personnes, je leur posais la question, comme ça, sur le café, sur la cigarette, sur le temps d'écran. Et en fait, ça était évidemment constamment revu à la baisse. Et il y avait une dose d'addiction de besoin, mais il y avait une dose de plaisir en dehors. Et donc, ça diminuait. Puis je voyais que de séance en séance, on ne réabordait plus du tout ces sujets-là et que ça diminuait d'eux-mêmes. Parce qu'il y avait la fierté d'avoir initié un mouvement à partir de sa propre évaluation. Et puis derrière, d'être autonome et puis dire, il n'y a aucune injonction qui va me faire plier, parce qu'on a quand même de la fierté et de l'orgueil. Et puis moi-même, j'ai déclenché un mouvement vertueux et je vais aller jusqu'au bout, presque inconsciemment. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était chouette à observer. Et je voyais les gens fiers d'eux-mêmes. Et moi, ça m'enlevait une pression d'avoir un échange et puis de partir dans un conflit d'arguments.
Il y a vraiment une complicité que vous établissez avec le public. Il vous suit complètement avec ces anecdotes également qui remontent dans votre passé, dans votre enfance et qui sont source de vérité. En même temps, vous êtes très enraciné quelque part dans le passé avec des images bien symboliques et sur le présent et sur le futur.
Je pense qu'on ne parle jamais mieux des choses quand elles nous ont traversées. Et qu'on s'évertue souvent à sortir des chiffres, des études. Ça marche très bien pour le côté intellect. Mais je pense que la partie sensible de nous est plus percutée lorsqu'elle se rend compte confronté à une autre sensibilité. Je ne parle pas de sensiblerie, parce que là, on est presque dans la manipulation. C'est ce que fait très bien le cinéma hollywoodien, par exemple. Mais là, c'est de dire, bah voilà, je vais parler d'un vécu, je vais parler d'une histoire, et forcément, quand ça va transiter par moi, il va y avoir une autre émotion, il va y avoir une autre intention, on va sentir d'où je parle, oui, avec une intention très spécifique. Et là, on va pouvoir s'imaginer. L'imaginaire va fonctionner parce que j'ai humanisé le propos qui n'est pas du tout conceptuel, qui part du réel. Et moi, je suis quelqu'un, évidemment, de terrien, parce que je viens du monde paysan. Je ne me considère absolument pas comme quelqu'un d'intellectuel. Je me considère quelqu'un de très pratique, très pragmatique, très incarné. Et donc, du coup, je fais souvent appel à ça, de la même façon que je fais souvent appel au cas des personnes que j'ai rencontrées, qui, moi, me passionnent, me fascinent. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier de transmetteur, à travers l'écrit, la vidéo ou l'édition. Et j'ai l'impression que c'est ce qui me met le plus en mouvement et en symbiose avec les personnes que je peux avoir à côté de moi ou en face de moi.